Les amours de Lancelot du Lac, chapitre 15. Or, en voyant le blanc chevalier s'éloigner ainsi du château, que le sénéchal s'était fait armer en toute hâte. Enfin, monté sur son destrier, il s'élança sur ses traces. Mais il ne put le rejoindre. Tout le jour il chevaucha, et la nuit le surprit dans la forêt. La pluie s'était mise à tomber, épaisse et drue, et il fut heureux lorsqu'après avoir longuement erré, il arriva près d'une maison forte, bien close de fossés profonds et pleins d'eau, et environnée de gros chênes serrés, où il pensa qu'il pourrait s'héberger et sécher sa robe et ses armes, trempé malgré sa chape de pluie. Il s'avança jusqu'au bord du fossé, à travers les ronces, et appela si fort, par trois fois, qu'une pucelle parut sur la muraille, qui lui demanda ce qu'il voulait. « Demoiselle, je suis un chevalier errant, mouillé d'eau, comme vous pouvez voir. Je voudrais avoir gîte ici, et plus encore pour mon cheval que pour moi, car il a marché tout le jour et par un très mauvais temps. Sire, tous les chevaliers errants qui veulent être accueillis en cette maison doivent auparavant combattre, telle est la coutume, et s'ils sont outrés par le champion qui est séant, ils doivent se rendre en notre prison. Mais s'ils sont vainqueurs, savez-vous ce qu'ils gagnent? Non seulement d'être hébergés ici, mais d'avoir ma demoiselle à leur plaisir et d'en faire leur volonté comme de leur bonne amie jusqu'au matin. « C'est là, fit que, une mauvaise coutume. Sire, je n'en puis, mais combattrez-vous ? » Que répondit qu'il acceptait, pour ce qu'il ne savait à cette heure où aller. Aussitôt le pont s'abaissa, la porte lui fut ouverte, et des valets vinrent l'aider à descendre. Puis la pucelle le prit par la main et le conduisit dans une vaste chambre où brillaient tant de torches, de chandelles et de cierges qu'il semblait vraiment que toutes les étoiles errantes aux cieux y rendissent leur clarté. À peine entré là, un grand et fort chevalier lui courut su, l'épée à la main. Mais le sénéchal fit tant d'armes qu'il força son adversaire à crier merci. Alors la pucelle vint le prendre par la main, et tandis que les valets emportaient le blessé, elle le désarma et lui passa au col un riche manteau. Enfin, elle le mena dans la salle, où un bon feu flambait dans la cheminée et où les tables étaient dressées. Que vint tout d'abord à la flamme, où il sécha sa robe et se chauffa. Puis il s'assit au souper. À son côté était une demoiselle, qui semblait belle, mais qui était si bien enveloppée dans un voile qu'on ne lui voyait guère d'autre peau que celle des paupières. D'ailleurs, il avait un grand besoin de manger et de boire, et il lui souvenait plus de sa rude journée que de son droit sur elle. À la fin du souper, la pucelle qui l'avait accueillie se mit à chanter des chansons nouvelles, en s'accompagnant de la harpe, si doucement que c'était merveille de l'ouïr. « Hélas, le mal d'aimer m'oxy, il me fait désirer. Hélas, le mal d'aimer par un doux regarder me prie. Hélas, le mal d'aimer m'oxy. » Mais que sentit qu'il se refroidissait pour ce que sa robe n'était pas sèche. Alors il s'assit près de la cheminée, sur la jonchée, le dos et l'épaule tournés au feu, et se chauffa si bien qu'il s'endormit, comme celui qui avait souffert tout le jour de la pluie et du vent. « Belle-sœur à Hélice, dit alors la pucelle à la harpe à la demoiselle voilée, « ce chevalier ne paraît pas désirer beaucoup de prendre ce qu'il a gagné. » « Non, mais nul ne fait d'aussi grande folie que le sage quand il s'y met. Je vais me coucher, mais n'oubliez pas ce dont nous avons convenu, car autrement vous me laisseriez honnir. » Ainsi parlèrent les deux sœurs, et ce fut assez avant dans la nuit que le sénéchal se réveilla. La pucelle à la harpe lui donna à boire, puis elle lui fit traverser deux chambres, toutes peintes de bêtes, d'oiseaux et de poissons nageant, et dans la troisième, elle lui montra un haut lit. « Demoiselle, dit que en riant, le lit est l'un des plus riches que j'ai vu depuis longtemps. Mais tenez-moi la promesse faite, car je ne veux point que l'aventure soit par moi diminuée pour les autres chevaliers errants. »
Sire chevalier, sachez que vous êtes le premier qui ait conquis le gîte et la demoiselle, et l'aventure est désormais achevée. Ceux qui passeront pourront être hébergés ici, mais la dame de Séant ne sera plus tenue à rien envers eux. »
J'ai donc fait un plus riche gain encore que je ne pensais.
Là-dessus, la pucelle le conduisit dans une autre chambre, très bien ornée, où il vit dans un lit la plus blanche et la plus avenante des pucelles, qui paraissait dormir.
« Sire chevalier, que vous en semble ?»
Elle le déchaussa, il se coucha, et la pucelle à la harpe sortie, il prit Aélis dans ses bras. Mais elle feignait de sommeiller, ce que voyant, il se tint quoi, et, fatigué comme il était, ne tarda pas à s'endormir lui-même. Un peu avant le matin, il se réveilla et se rapprocha de Samy, et elle le laissa faire. Mais quand il voulut jouer le jeu de main chevalier, elle tira secrètement un lien qui mettait en mouvement une sonnette au dehors, et aussitôt quelqu'un sonna du cor derrière la porte, si rudement que la voûte en trembla, et que le sénéchal en sursauta et perdit toute la volonté qu'il avait. Un peu plus tard, il se remit pourtant à étreindre Samy, mais alors la sonnette à nouveau tinta, et le cor éclata deux fois plus fort, et le sénéchal, plus ébahi encore que devant, demanda à la demoiselle ce que cela signifiait.
« C'est un épouvante mauvais, » dit-elle.
« Épouvante mauvais ?» répète que. Et il a si grand honte qu'il en transpire et achève de perdre le reste de son vouloir. Là-dessus, la pucelle à la harpe entre dans la chambre.
« Maintenant, beau sire, levez-vous, car il fait jour, » dit-elle en ouvrant le volet. « Qui trop dort au matin, maigre devient. »
Et que, frappé par la clarté en plein visage, se lève tout dolent et courroucé. Il descend dans la salle où étaient restées ses armes et s'en revêt. Il monte sur son destrier qu'on lui amène. Il s'éloigne sans mot dire derrière la pucelle, car elle veut le remettre dans son chemin. Elle allait un peu en avant de lui sur sa mule, et elle devinait bien son pensée. Au bout d'un moment, elle se mit, en riant un peu, à chanter la chanson. « Il n'est point jour, savoureuse aux corps jantes. Ah, de par Dieu, l'alouette nous ment !» Puis elle se laissa rejoindre et lui dit, pour le mettre en parole, « Dormez-vous, sire ? Peut-être votre ami vous aura fait veiller plus que vous n'en aviez besoin après une si rude journée. » Que vit bien qu'elle se moquait. « Demoiselle, si je suis raillée, je n'en peux, mais... Et il en est bien d'autres dans le pays. Toutefois, il y a longtemps que j'ai ouï dire pour la première fois que mieux vaut être, à la fin, trompé que trompeur. » Ainsi devisait-il, tout en chevauchant. Enfin, ils approchèrent de la douloureuse garde. Quand on aperçut au loin la tour du château, qui était des plus hauts qui aient jamais été, la pucelle prit congé de lui, et il continua son chemin, pour revenir auprès du roi. Mais le comte cesse à cet endroit de parler de queue de sénéchal, pour dire ce qui advint à Lancelot du Lac, lorsqu'il eut quitté la forteresse et qu'il se fut éloigné au galop à travers la forêt. Chapitre 16. Le chevalier à la litière. Il passa la nuit chez un ermite, et le lendemain, il en partit avec ses écuyers qu'il avait rejoints, pensif et assiégé d'amour, et triste d'avoir offensé la dame qu'il aima plus que rien au monde du moment qu'il la vit. Et ainsi chevaucha-t-il tout le jour, comme celui qui ne se soucie que d'une chose, à quoi il pense tant et tant qu'il ne voit ni n'entend. On était à la mi-août, et il faisait grand chaud, en sorte que les mares étaient sèches et boueuses. Au soir, son pâle froid fatigué, qui allait à sa guise, mit les pieds de devant dans un bourbier et tomba lourdement. Quand Lancelot eut été relevé par ses écuyers, ses arçons se trouvèrent brisés et lui-même si mal en point
qu'il fallut le transporter sur son écu dans un prieuré voisin. Il y fut reçu à grande pitié, et il y demeura 3 jours, durant lesquels il fut baigné et médiciné, car il était rudement moulu. Mais le 4e, il fit faire avec des branches une litière que ses écuyers couvrirent d'un riche drap de soie. Et le 5e, il partit. Tant pour n'être pas reconnu qu'afin de ne rien devoir désormais qu'à sa propre prouesse, il voulut laisser l'écu à 3 bandes vermeilles que lui avait envoyées la dame du lac. Et il en prit un, de sinoph et d'argent, qu'il avait envoyé acheter dans une ville voisine. La litière allait doucement, portée par 2 bons pales froids, et le malade dormait profondément lorsqu'une dame vint à passer, qui chevauchait, escortée de 20 fers vêtus. Dessous un deck soutenait 4 valets. Sa robe était de soie vermeille, son manteau fourré d'hermine, et bien que voilée, elle semblait belle à merveille. « Qu'a donc ce chevalier ? » demanda-t-elle. Ce disant, elle descendit de sa mule, vint à la litière, souleva la couverture, et, dès qu'elle eut aperçu le visage du malade, elle se prit à lui baiser les yeux et la bouche en pleurant. Lancelot reconnut la dame de Nohant, et tenta aussitôt de cacher son visage. « Ce n'est pas la peine, » fit-elle tristement. Et elle le supplia de venir chez elle, où il serait mieux soigné qu'en aucun lieu du monde. À quoi, de guerre lasse, il consentit. Ainsi cheminèrent-ils, à petite journée, couchant dans 2 pavillons très riches que la dame faisait transporter sur ses sommiers et qu'on dressait chaque nuit. Le lendemain soir, ils passèrent devant la douloureuse garde, et la dame comptait de s'héberger jusqu'au matin dans le bourg. Mais d'abord qu'il aperçut le fort château, Lancelot se mit à pleurer. « Ah, porte, porte !» gémissait-il. « Pourquoi ne fûtes-vous ouverte à temps ?» Alors la dame pensa que ce devait être lui qui avait conquis la forteresse enchantée. Mais elle n'en osa rien dire et commanda de pousser plus outre. À la fin, ils arrivèrent à Nohant. Et la dame soigna là le chevalier malade et lui fit compagnie durant 10 jours. Au bout de ce temps, il se trouva mieux, et le repos lui pesa si fort qu'il demanda à son médecin « Maître, ne suis-je assez guéri maintenant pour porter les armes ?»« Nenni, » fit le mire. Mais malgré qu'il en eût, Lancelot commanda à ses gens de trousser ses coffres sur les sommiers, et après avoir pris congé de son hôtesse éplorée, il partit à l'aventure. Chapitre 17. Retour à la douloureuse garde. Il erra ainsi jusqu'à l'heure de nonne, qu'il rencontra un valet galopant à toute bride sur un grand cheval de chasse qui semblait exténué. « Valet, d'où viens-tu si vite ?»« Madame la reine est en prison à la douloureuse garde. Les gens du château jurent que, quoi que fasse le roi Artus, ils ne la délivreront pas avant que le chevalier qui conquit le château ait défait les enchantements. Aussi, madame a-t-elle envoyé des messagers par tous les chemins pour le chercher. » « Belle amie, va-t-on dire à la reine que le chevalier qui conquit le château sera ce soir auprès d'elle. « Mais, sire, je n'oserais m'en retourner sans lui avoir parlé. Est-ce vous ?»« Voir, mais tu me fais dire une vilainie. » Le valet repartit aussi vite que son cheval put aller, et Lancelot pressa l'allure de ses gens, si bien qu'il atteignit le château à la nuit. À peine eut-il franchi la porte avec sa compagnie, on la referma derrière eux. La cour était toute illuminée de cierges ardents et de torches. Au plus beau jour d'été, il ne fait pas plus clair dans les champs qu'il faisait dans cette cour. Grâce à quoi, Lancelot reconnut l'écuyer qu'il avait rencontré l'après-midi. « Où est madame la reine ?»« Sire, suivez-moi. » Bientôt, ils se trouvèrent au pied de la roche sur laquelle se dressait le logis. Le valet ouvrit une épaisse grille et, bâillant plein poing de chandelle à celui qu'il conduisait, « Sire, faites de la lumière, » dit-il, « durant que je referme l'huisse. »
Mais comme Lancelot allumait les chandelles, il tira traîtreusement la porte et l'enferma. Quand il se vit pris ainsi dans un cachot, le chevalier fut dolent, car il pensait bien qu'il n'en sortirait pas à sa guise. La nuit passa cependant. Au matin, une demoiselle d'un grand âge vint lui parler à travers les barreaux. « Sire chevalier, vous voyez que vous êtes prisonnier. Vous ne serez point délivré avant d'avoir juré que vous ferez tomber les enchantements de ce château. » « Madame la reine est-elle en liberté ?»« Depuis longtemps elle est partie d'ici. Ce que l'on vous a dit était pour vous attirer. Mais jurez-vous de mettre les gens de ce château en repos ?» Il en fit le serment sur les reliques qu'on apporta derrière la grille. Alors on lui ouvrit la porte et on lui servit un repas fort bon dont il usa d'un cœur hardi, car il n'avait rien mangé depuis la veille au matin. Après quoi, on lui dit qu'il devait soit demeurer 40 jours dans le château, ou bien aller chercher les clés des enchantements. « Je les irai quérir, dit-il, mais hâtez-moi ma besogne, car j'ai affaire ailleurs. » Sur le champ, on lui donna ses blanches armes et on le mena dans le cimetière à l'entrée d'un souterrain. Il se signa, puis, l'épée nue à la main, l'écu devant la poitrine, il entra. Chapitre 18. Les clés des enchantements. La joyeuse garde. Il marcha vers une grande lueur qu'il apercevait au loin. Tout à coup, il se fit une horrible rumeur, mais il serra son épée et ne s'arrêta point. Il lui parut que la terre tremblait, que la voûte menaçait de crouler sur sa tête et que tout vivait autour de lui. Il s'appuya au mur et continua comme il put d'avancer. Il parvint ainsi à une porte. Sur le seuil, deux hommes d'armes en cuivre, chacun tenant une épée qu'on aurait eu peine à soulever, faisaient des moulinets si serrés qu'une mouche n'eût su passer sans être atteinte. Lancelot mit son écu sur sa tête et s'élança entre eux. Le coup qu'il reçut rompit son bouclier, trancha son haubert à l'épaule, fit couler son sang rouge et le précipita sur les deux mains. Mais il se remit debout, ramassa son épée tombée, se couvrit à nouveau des restes de son écu et, sans jeter un regard en arrière, il continua son chemin. Bientôt, un puits lui apparut, d'où sortait une affreuse puanteur et la rumeur hideuse qu'on entendait. Et devant le puits, il y avait un homme noir dont les yeux luisaient comme des charbons ardents et dont la bouche vomissait un torrent de flammes bleues. Il tenait une hache qu'il prit à deux mains et leva en voyant le chevalier approcher. Et celui-ci s'arrêta, car le puits seul eût suffi à lui promettre le trépas. Il remit son épée au fourreau, fit passer son écu dans sa main droite et soudain courut d'une telle force sur l'homme noir qu'il fût tombé dans le puits s'il le manquait. Mais il le heurta en plein visage de son écu qui en acheva de s'écarteler et dans le même temps il le prit à la gorge. Sous l'étreinte du poing dur, le noir à demi étouffé laissa choir sa hache. Alors Lancelot le traîna d'une seule main jusqu'au puits où il le jeta. Puis à nouveau, il dégaina. Mais, à ce moment, il vit devant lui une demoiselle de cuivre richement émaillé qui tenait dans sa dextre les clés des enchantements. Et auprès d'elle, sur un pilier d'airain, des lettres disaient « La grosse clé me déferme, la menue déferme le coffre périlleux. » Lancelot ouvrit le pilier et découvrit un coffret. 30 affreuses et inégales voix en sortaient par 30 tuyaux. C'était elle qui causait les douleurs du château. Après s'être signé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le chevalier mit la clé à la serrure et souleva le couvercle. Aussitôt, un tourbillon s'échappa du coffre, avec un si épouvantable bruit qu'il en tomba pâmé. Et sachez que c'était le braiement des diables qui fuyaient, battant les murs. Quand Lancelot revint à lui, le puits, le pilier d'airain, la femme et les géants de cuivre avaient disparu. et en arrivant à l'issue du souterrain, il ne vit plus à la place du cimetière qu'un beau verger. Tous les habitants par lui délivrés venaient à sa rencontre, plus joyeux qu'on ne saurait dire. S'ils lui firent fête, on le laisse à penser. Et désormais, la douloureuse garde fut nommée la joyeuse garde. Mais au matin, ayant changé son écu de sinople pour un vieux bouclier décoloré afin de n'être pas reconnu, Lancelot quitta le château, quoi qu'on fît pour le retenir. Chapitre 19. Le chevalier pensif et Daguenet le couard. Après avoir erré tout le jour sans trouver d'aventure, il s'hébergea pour la nuit chez une dame veuve qui demeurait au bord de la forêt. De bon matin, il se leva et vint à la fenêtre qui ouvrait sur la campagne. La matinée était belle et douce, les bois frémissaient, tout bruissant d'oisillons qui chantaient en leur langage, si bien qu'il eut tout d'abord grande joie. Puis il se ressouvint de ses amours, et il soupira du tréfond de son cœur. Son hôtesse lui apprit que le roi et la reine Guenièvre habitaient pour le moment non loin de là, à Camaalot. Alors il commanda à ses écuyers de l'attendre, et dès l'aube, il chevaucha vers la cité. Sachez que le roi Artus avait toujours ses châteaux au bord de quelques rivières. Et voici qu'en arrivant à la lisière de la ville, Lancelot vit une maison forte, tout entourée d'eau, et à une fenêtre, une dame, en chemise et surcot qui prenait le frais en compagnie d'une demoiselle. La pucelle avait ses tresses sur les épaules, mais la dame était enveloppée dans son voile, et elle contemplait les prés et les bois. Il se prit à la considérer avec tant d'attention qu'il n'entendit pas un chevalier qui passait lui demander ce qu'il regardait. Celui-ci répéta sa question en le poussant rudement. « Sire chevalier, je regarde ce qu'il me plaît, et vous n'êtes point courtois de me jeter ainsi hors de mes pensées. « Ce sont les diables d'enfer qui vous font ainsi contempler les dames, et vous y semblez plus hardi qu'aux armes. Suivez-moi, si vous l'osez. » Lancelot piquait des deux derrière lui, lorsque la reine, écartant son voile, révéla son visage. Ainsi le soleil dissipe une nuée. Et, voyant soudain ce qu'il aima toujours plus que sa vie, il tomba en extase. Son destrier, là, qui avait soif et ne se sentait plus mené, s'approche de l'eau pour s'abreuver. La berge était haute, le cheval tend le cou, le pied lui manque, il choit dans la rivière profonde. Lancelot demeure les yeux fixés sur la reine. Le cheval perd ses forces, il coule, et déjà l'eau monte aux épaules du chevalier fasciné. Mais toujours il contemple sa dame. « Sainte Marie, Sainte Marie dame !» criaient la reine et la pucelle. Messire Yvain, qui allait à la chasse chaussé de ses gros housseaux, les entendit et accourut au galop. Il tira par la bride le destrier sur la rive. « Beau sire, demanda-t-il, comment êtes-vous en cette rivière ?»«
Sire, j'abreuvais mon cheval. »«
Vous travaillez assez mal. Un peu plus vous vous y étiez noyé. Et où allez-vous ?»«
Sire, je suivais un chevalier. »
Lors, messire Yvain aperçut le vieil écu enfumé que portait celui qu'il venait de secourir.
« C'est un pauvre vavasseur, » pensait-il.
Il se contenta de lui montrer le guet et le laissa partir sans plus s'occuper de lui. Et Lancelot s'en fut où son destrier le menait. Il allait, perdu dans sa rêverie, comme celui qui n'a force ni défense contre amour, qui s'oublie lui-même, qui ne sait plus s'il existe, ni comment il a nom, ni où il va, ni d'où il vient. Daguenet le fol le croisa. C'était un chevalier, mais la plus niaise et la plus couarde pièce de chair qu'on ait jamais vue. Tout le monde se jouait de lui et s'amusait de ses folies, quand il contait qu'il était sorti pour chercher aventure et qu'il avait oxy deux ou trois champions.
« Où allez-vous ? » demanda le fol.
Et comme le chevalier pensif ne répondait pas, Daguenet saisit son destrier par le frein
et il le ramena au château, dont Lancelot, rêvant, ne s'aperçut point. Lorsqu'elle sut que Daguenet le Fol avait conquis un chevalier, la reine fut bien ébahie. Elle lui fit dire d'amener son prisonnier. « Voici le champion que j'ai pris !» s'écria fièrement le couard en entrant dans la salle. « Tels sont ceux que je sais prendre !» Et il se pavanait, disant à chacun « De tels, vous n'en prendrez jamais !»« Daguenet, demanda la reine, « par la foi que vous devez à monseigneur le roi et à moi, comment l'avez-vous conquis ?» Or, à la voix de la reine qui lui parut un chant, le chevalier pensif leva la tête. Sans qu'il s'en aperçût, ses doigts s'ouvrirent. Il lâcha sa lance qu'il tenait par le milieu et dont le fer vint déchirer le manteau de Madame Guenièvre. « Ce chevalier ne me semble pas bien sage, » dit-elle tout bas à Monseigneur Yvain. « Demandez-lui qui il est. » Aux paroles de Monseigneur Yvain, Lancelot frissonna comme un homme qui s'éveille. « Sire, » répondit-il, « je suis un chevalier. » « Et que cherchez-vous ? » « Sire, je ne sais pas. » « Vous êtes prisonnier. » « Sire, c'est bien fait. » « N'en direz-vous pas plus ? » « Sire, je ne sais que dire. » « Daguenet, » fit messire Yvain, « le laisserez-vous aller si je m'offre à vous comme otage ?» Le fol ayant consenti, messire Yvain ramassa la lance de Lancelot et la lui rendit. Mais il lui fit donner un autre cheval. Enfin, il le conduisit au guet, qu'il lui montra, en lui disant que celui qu'il suivait était parti par là. Et le chevalier pensif s'éloigna. Chapitre 20. Le chèvrefeuille. Cependant, la reine, tout ébahie de ce qu'elle avait vu, causait avec ses dames et demoiselles et leur demandait si elles savaient quelle maladie pouvait avoir ce chevalier. À vrai dire, peut-être la soupçonnait-elle. « Dame, dit une vieille, m'est avis que son cœur est à malaise, car il advient maintes fois que le cœur souffre d'une maladie où nulle médecine mortelle ne peut rien, et seule y convient la médecine de notre Seigneur, comme aumône, jeûne, oraison, larmes et conseils de religieuses gens. Et il est une autre maladie du cœur, c'est quand il est angoissé de quelque honte qui a été faite au corps. » On se guérit alors en tirant vengeance du forfait, en rendant honte pour honte. Le cœur est la plus franche et la plus nette partie de l'homme, et il prend sur lui toutes les hontes et tous les maux, car le corps n'est que la maison du cœur. Mais maintenant, je vous dirai la troisième maladie par laquelle un franc cœur est à la torture. C'est le mal d'amour, quand on ne peut venir à bonne fin. Amour entre par les yeux et les oreilles, et si le cœur est percé par une de ces portes, toujours il convient souffrir. Car quand même il entend les douces paroles et jouit de la compagnie de ce qu'il a tant désiré, il craint encore de le perdre. Telles sont les trois maladies du cœur. L'on guérit de la première et de la seconde, comme j'ai dit, mais la troisième est la plus dangereuse. Parce qu'il arrive que le cœur n'en veuille guérir, et quand ainsi il préfère son mal à sa santé, on ne sait quel conseil donner. « Dame, fit une des pucelles, tel fut le mal de Monseigneur Tristan et de la reine Iseu. Vous plaît-il d'entendre le lait nouveau qu'on en a fait ?» Et prenant sa harpe, elle chanta, si doucement que toutes se turent pour l'écouter. Le lait qu'on nomme chèvrefeuille assez me plaît pour que je veuille vous en conter la vérité. Comment fut fait, par qui chanté, de Tristan et d'Iseu, la reine, de leur tendresse et de leur peine, de leur douleur, de leur amour, dont ils moururent en un jour. Le roi Marc était courroucé contre son neveu irrité, de son royaume il l'exila, pour la reine Iseu qu'il aima. En Galles, où il était né, Tristan demeure un an entier, le désir de la mort le point. Ne vous en émerveillez point. Qui aime bien loyalement, sans sa mine n'a que tourment. En Cornouailles, il s'en retourne, au lieu où la reine séjourne, Il ne voulait pas qu'on le vît. Dedans la forêt, il s'est mis. À la vesprée, il en sortait, quand le temps des bergers venait. Il courait chez de pauvres gens, toujours pensifs, toujours dolents. Un soir, il les ouït parler. Tous les barons sont appelés. À Tintagel, ils vont venir. Le roi Marc veut sa cour tenir. Joie et déduit, mout y aura, et la reine Iseux y sera. Le jour que doit passer le roi, Tristan se hâte par le bois. Il s'est caché près du chemin que suivra la reine au matin. D'un coudrier coupe une branche, il l'écarie, l'écorce tranche, puis, ayant paré ce bâton, il y marque au couteau son nom. Quand la reine l'apercevra, le signe elle reconnaîtra. Il dit que Tristan est venu, qu'il a bien longtemps attendu, pour épier et pour savoir comment il la pourrait revoir, qu'il ne saurait vivre sans elle, qu'il en saura de lui et d'elle, tout ainsi que du chèvrefeuille, qui noue au coudrier sa feuille. Lorsqu'autour du bois il s'est mis et qu'il s'y est lassé et pris, ensemble ils peuvent bien durer. Mais si l'on veut les séparer, le coudrier meurt promptement, le chèvrefeuille mêmement. Belle amie, ainsi est de nous, ni vous sans moi, ni moi sans vous. La reine s'en vint chevauchant avec une escorte de gens. Le bâton vit, bien l'aperçut, toutes les lettres y connues. « Je veux descendre et reposer, » dit-elle à ses chevaliers. Du chemin, elle s'éloigna. Dedans le bois, celui trouva qu'elle aimait plus que rien vivant. Ah, quelle joie ils vont faisant! Il lui parle tout à loisir, elle lui dit tout son plaisir. Mais quand il faut se séparer, lors il commence de pleurer. En Galles, Tristan s'en râla. Son oncle enfin le rappela. Pour le bonheur qu'il avait eu lorsqu'il avait Iseux revu, et pour les mots remémorés, Tristan, qui savait bien harper, fit un très doux et nouveau lait. Gottschlief l'appelle les Anglais. Les Français disent chèvrefeuille. Mais le comte, à présent, ne parle plus de la reine Guenièvre et de ses dames, et retourne au chevalier pensif, qui chevauche aussi vite que son destrier peut aller. Chapitre 21. Lancelot au puits de Malehaut. Il ne tarda pas à rejoindre celui qui l'avait défié, et de son premier coup de lance, il le tua, dont il fut bien dolent. Mais qu'y faire? Puis il reprit son chemin, et bientôt approcha d'une cité qu'on nommait le puits de Malehaut. Or, comme il entrait dans la ville, il fut dépassé par deux écuyers, portant l'un le haume, l'autre l'épée du chevalier qui l'avait toxi. Et lorsqu'il voulut sortir par l'autre porte, il la trouva fermée. Et tout à coup, il fut assailli par plus de 100 sergents. Il se défendit de son mieux, mais son cheval tué, il dut se réfugier sur les degrés d'une maison. Là, il fut durement attaqué, et déjà ses ennemis l'avaient fait tomber sur les genoux 2 ou 3 fois, lorsque la dame de la ville survint, qui le requit de se rendre à Merci. « Dame, demanda-t-il, en quoi ai-je méfait? Vous avez tué le fils de mon sénéchal, mais rendez-vous à moi. » Il lui tendit son épée. Et le comte se tait pour un temps de monseigneur Lancelot. Chapitre 22. Le fils de la belle géante, la semonce au roi. Or, un jour, il vint nouvelle au roi Artus de Galehaut, le fils de la belle géante, seigneur des îles lointaines, qui avait envahi les marches de Galore. Le roi demanda quel était ce Galehaut, et on lui dit que c'était un très grand et fort chevalier de la lignée des géants, mais qu'il n'avait pas accoutumé, comme ceux de sa nature et ses ancêtres, de boire à se saouler chaque nuit. Au contraire, il était le plus prud'homme et le plus modéré en toutes choses, courtois, preux, sage, bien disant, plein de largesse. Et il s'était promis de guerroyer jusqu'à ce qu'il eût conquis 30 royaumes. « Bel ami, dit le roi Artus au messager, faites savoir à ceux des marches que je partirai cette nuit pour les défendre. »« Sire, dit messire Gauvin, vous ne devez point ainsi vous mettre en aventure. Galeot a toute une armée, et vous êtes ici fort privément. »
« À Dieu ne plaise, répondit le roi, qu'on envahisse ma terre et que je demeure en repos. »
Il partit dès le lendemain et chevaucha tant qu'il parvint au château de Galaure. Galeot campait devant la forteresse avec son armée qu'il avait retranchée derrière des réseaux de fils de fer, et il avait amené, outre ses chevaliers, une grande quantité de gens de pied, armés d'arcs et de flèches venimeuses. Mais, quand il apprit que le roi Artus était venu avec si peu de monde, il songea qu'il n'y aurait pas d'honneur à guerroyer contre un adversaire si faible et à conquérir une terre si pauvrement défendue. Aussi manda-t-il au roi qu'il lui ferait trêve pendant un an pour lui permettre de réunir toutes ses forces, après quoi leurs chevaliers s'assembleraient en un grand tournoi. Le roi Artus s'émerveilla d'une telle courtoisie, et il envoya des messagers dans toutes les parties du royaume de l'ogre. Le lendemain soir, on vit arriver à Galaure un homme grand et vigoureux, les épaules larges, les poings maigres et veineux, les cheveux rudes, les yeux gros et brillants, l'allure fière et le visage plein de cicatrices, comme le corps en main lieu qui ne se voyait point. C'était un ancien chevalier, nommé Nachien, cousin germain par sa mère de Perceval le Gallois, dont le comte devisera tout à loisir plus avant, descendant du lignage de Joseph d'Arimathie, dont les 17 fils illustrèrent la terre de Bretagne, et parent du roi Pelès, le riche pêcheur. Et il avait été l'un des meilleurs chevaliers du monde au temps du roi Uther Pendragon et de la jeunesse du roi Artus. Puis, ayant laissé la chevalerie, il s'était fait ermite, et notre sire avait mis tant de grâce en lui qu'il devint prêtre chantant messe, et qu'il demeura vierge et chaste tant qu'il vécut. Quand le roi apprit son arrivée, il en fut très réconforté, et celui fut avis que Dieu lui envoyait secours. Il vint à la rencontre de Nachien, mais le prud'homme lui dit, sans lui rendre son salut, « Je n'ai cure de ton salut, et je ne l'aime pas, car tu es le plus vieux pêcheur de tous les pêcheurs. Tu dois savoir que c'est de notre Sauveur lui-même que tu tiens ta seigneurie, et il te la bailla pour que tu lui en suses bon gré. Pourtant, tu ne laisses pas venir à toi le pauvre et le faible, et le droit des veuves et des orphelins dépérit, tandis que tu honores les riches et les déloyaux. »
« Beau doux maître, dit le roi, si j'ai mes faits, conseillez-moi.
Tu dédaignes les bas gentilshommes de la terre, et pourtant le royaume ne peut être maintenu si les petites gens ne s'y accordent. Aussi, ceux-là, quand ils viennent à ton aide, c'est par force, mais ils ne te sont pas plus utiles que s'ils étaient morts, car tu n'as pas leur cœur, et corps sans cœur n'a nul pouvoir. »
Ah, maître, pour Dieu, apprenez-moi comment je pourrais être secouru, si c'est possible.
Je t'apprendrai à guérir cœur malade et cœur désespéré, et c'est une très belle médecine, car le cœur d'un homme vaut tout l'or d'un pays. Et voici comment tu feras. Dès que tu le pourras, tu iras visiter tes bonnes villes et rendre justice à chacun selon son droit, et tu manderas à toi les plus humbles chevaliers comme les hauts hommes. Et quand on te montrera quelque prud'homme qui n'aura d'autre bien que sa prouesse et qui se dissimulera entre les autres pauvres, tu te lèveras et tu iras t'asseoir auprès de lui et tu t'enquerras de lui. Et chacun dira « Avez-vous vu comment le roi a quitté tous les riches pour ce modeste chevalier ?» Ainsi tu gagneras le cœur des basses gens. Et si les folles te le reprochent, peu t'en chaille. Puis tu choisiras un de tes chevaux sur lequel tu monteras, tu iras vers ce pauvre chevalier, et après avoir mis pied à terre, tu lui placeras la bride dans la main, en lui disant qu'il chevauche à l'avenir ce destrier pour l'amour de toi. Enfin, tu lui feras largesse de tes deniers. Au vavasseur, tu donneras aussi, mais autrement, car ils sont aisés dans leur maison. Tu leur donneras des rentes, des terres, des robes, du palefroid, et prends garde d'avoir toujours monté auparavant les chevaux dont tu leur feras présent, car ainsi ils diront qu'ils ont le palefroid que tu chevauchas. Aux hommes, aux rois, aux ducs, aux comtes et aux barons, tu donneras ensuite des vaisselles précieuses, des beaux joyaux, des draps de soie, des bons faucons, des destriers, et tu t'appliqueras moins à leur faire de riches cadeaux que d'agréables, car on ne doit donner à personne des choses dont elle a déjà plus que sa suffisance. Ainsi feras-tu largesse à chacun selon son rang, et crois que ces présents te gagneront les cœurs, et que tes terres seront bien gardées. Tu ne peux rien que par les hommes, car tu n'es qu'un homme toi-même, et tu dois mieux aimer qu'ils tiennent en fief une partie de ta terre que de la perdre honteusement. Et ce que tu feras pour eux, il conviendra que la reine le fasse pour les dames et les demoiselles. Et prends garde de donner en montrant bon visage, car on n'a nul gré d'un présent fait en rechignant.
Certes, beau maître, je ferai ce que vous m'avez commandé.
Maintenant, mande les plus hauts et sages clercs qui soient ici, et confesse-leur tous les péchés que tu découvriras en toi. Et prends garde que la confession n'est valable que si le cœur se repent de ce que la langue avoue. Et ne manque pas de leur dire le grand péché que tu fis en ne secourant point ton homme Lige, le roi Bande Benoïc, qui est mort pour ton service et qui a vu prendre son dernier château par le roi Claudas de la terre déserte sans avoir aucune aide de toi. Et je ne parle pas du petit Lancelot, son fils, qui, encore au maillot, fut enlevé jadis par un diable sous la semblance d'une demoiselle, ni de sa femme, qui s'est faite nonne voilée pour ce qu'elle fut trop déconfortée de perdre le même jour son seigneur et son enfant. Alors le roi songea que d'avoir laissé mourir ainsi son vassal, le roi Ban, qui venait lui demander aide, c'était la plus grande honte qu'il eût connue depuis son couronnement. Aussi appela-t-il dans sa chapelle ses archevêques et ses évêques, et il se présenta devant eux tout nu, en braie, tenant une poignée de menues verges qu'il jeta à leurs pieds en versant des larmes et en les priant de tirer de lui la vengeance de Dieu. Ils l'écoutèrent à grande pitié, et ils lui donnèrent absolution et pénitence. Mais le comte laisse ce propos pour retourner à la dame de Malleau et à Lancelot du Lac, son prisonnier. Chapitre 23. La dame de Malleau, Lancelot en geôle. Elle était bonne dame, sage et fort prisée de tous ceux qui la connaissaient. Les gens de sa terre l'aimaient tant que lorsqu'on leur demandait comment était leur dame, ils répondaient qu'elle était l'émeraude de toutes les autres. Et elle avait fait au chevalier qui s'était rendu à elle une assez douce prison, car elle l'avait enfermée dans une geôle dont les deux fenêtres closes de grille donnaient sur la salle de son logis, si bien qu'elle lui pouvait parler quand elle voulait, et lui à elle. C'est ainsi qu'il vit et entendit un jour les envoyés du roi Artus faire à la dame leur message. Et dès qu'ils furent sortis, il la pria de s'approcher de la geôle. « Dame, j'ai ouï dire que le roi Artus est en ce pays. Je suis un pauvre chevalier, mais je connais des gens de sa maison qui pourraient m'aider à payer ma rançon. »«
Beau sire, je ne vous tiens point par convoitise d'une rançon, mais par justice, car vous m'avez fait un très grand outrage. »
« Dame, je ne le puis nier, mais j'y ai été contraint pour défendre mon honneur. » Et si vous vouliez me laisser sortir, vous feriez bien, car j'ai entendu qu'il y aura bataille entre le roi Artus et Galeo, le fils de la géante, et je vous promettrai sur ma foi de rentrer la nuit en votre prison, sauf mort ou blessure qui empêcha mon corps.
Je le ferai, si vous me dites votre nom.
Dame, je ne le puis, mais je jurerai de vous l'apprendre dès que cela me sera permis.
Ainsi fut-il convenu, et lorsque le moment fut venu, la dame de Malleau donna à Lancelot un cheval,
avec un écu et des armes vermeilles. En cet équipage, il se rendit à l'armée du roi Artus, qui n'était qu'à 2 lieues galloises du puits de Malehaut. Chapitre 24. Le tournoi de Galaure, le chevalier vermeil. Or, en arrivant, il vit les chevaliers des deux parts de la rivière, prêts à combattre, et il s'arrêta sur le bord du gué entre les deux armées. Il y avait là une loge que le roi Artus avait fait dresser pour que la reine, les dames et les demoiselles pussent voir le tournoi, et où le roi s'assit lui-même, car il avait été convenu que ni lui ni Galehaut ne prendraient part à la bataille. Lancelot s'appuya sur sa lance et demeura, immobile sur son cheval, à contempler cette loge, comme celui qui s'est oublié lui-même. Cependant, le premier des rois conquis par Galehaut, celui qui lui avait rendu hommage le plus anciennement, s'était détaché de l'armée ennemie pour donner le premier coup de lance. Et, l'écu devant la poitrine, il avançait vers le gué. À cette vue, les héros et les crieurs d'armes du roi Artus commencèrent de clamer « Leurs chevaliers viennent! Voyez-les! Le roi premier conquis approche !» Et s'adressant à Lancelot, qui rêvait toujours, les yeux sur la loge où était la reine, « Sire chevalier, voyez un des leurs venir! Qu'attendez-vous? Il vient !» Mais ils eurent beau lui répéter cela 100 fois, il ne répondit mot, car il ne les entendit point. Et à la fin, l'un d'eux put s'approcher et lui enlever son écu sans qu'il s'en aperçût seulement. Alors un garçon ramassa au bord de l'eau une motte de terre humide et la lui lança de toutes ses forces sur le nasal du homme, en criant « Mauvais failli, à quoi songez-vous ?» L'eau boueuse lui piqua les yeux. Alors Lancelot revint à lui. Il vit le roi premier conquis approcher. Aussitôt il brocha des éperons, baissa sa lance, et, sans écu comme il était, lui courut su. Le roi le frappa en pleine poitrine. Mais son aubert, qui était fort, ne céda pas, et il renversa à la fois l'homme et le cheval. Aussitôt, le héros qui lui avait pris l'écu courut le lui repasser au col. Mais Lancelot, sans daigner seulement le regarder, s'apprêta à faire front aux gens du premier conquis, qui s'élançaient à la rescousse de leur seigneur. Les hommes du roi Artus accouraient à leur tour. Ils les accueillirent sur le fer de leurs lances, et ainsi commença la dure mêlée. Messire Gauvin fit là 1000 exploits, mais il reçut tant de coups que le sang lui sortait par la bouche et le nez, et qu'à la fin, étant tombé de son cheval, il fallut l'emporter tout pâmé. Des deux parts, la prouesse fut merveille, mais par-dessus tous se distingua le chevalier aux armes vermeilles, car il abattit tous ceux qu'il rencontra. Pourtant, quand la nuit tomba, il disparut, et personne ne put apprendre ce qu'il était devenu. Chapitre 25. La dame de Malehaut, le baiser. Il était retourné à Malehaut tout droit. Là, s'étant fait désarmer, il rentra dans sa geôle où il se coucha, si dolent qu'il ne put rien manger. Peu après, lui revinrent les chevaliers que la dame de Malehaut avait envoyés au combat. Ils contèrent les prouesses du champion aux armes vermeilles, et elle songea que ce pouvait bien être son prisonnier. Aussi, elle appela sa cousine Germaine et lui dit tout bas « Si c'est lui, ce grand vainqueur, nous le verrons bien à son corps et à ses armes. »« Dame, c'est facile. » »« Certes, mais gardez, si vous tenez à vos membres, que personne ne sache ce que je vais faire, hors nous deux. » Elle se débarrassa de ses gens et de ses demoiselles le plus tôt qu'elle put. Puis, faisant prendre à la pucelle plein point de chandelles, toutes deux furent à l'étable. Là, elles virent que le cheval du prisonnier était couvert de plaies, à la tête, au cou, à la poitrine, aux jambes. Il était en si mauvais point qu'il ne voulait pas seulement manger. « Dieu m'aide !» s'écria la dame. « Vous semblez bien le cheval d'un prud'homme. »« Dame, dit la pucelle,
m'est avis que ce destrier a eu plus de peine que de repos, et pourtant ce n'est point celui qu'avait votre chevalier quand il partit. »
C'est qu'il en a usé plus d'un. Mais allons regarder ses armes. »
Toutes deux furent à la chambre où on les avait rangées, et elles trouvèrent le haubert faussé et coupé sur les épaules et sur les bras, l'écu tout écartelé de coups d'épée et troué de coups de lance, le haume fendu et décerclé. Enfin, elles vinrent à la geôle, et par la porte qui était restée entr'ouverte, la dame de Malehaut passa la tête sans bruit. Lancelot gisait dans son lit. Il avait tiré la couverture dessus sa poitrine, mais à cause de la chaleur, ses bras étaient dehors, et il dormait profondément. La dame aperçut qu'il avait le visage enflé et tuméfié, le nez et les sourcils écorchés, le col meurtri par les mailles du haubert, les épaules tailladées, les bras tout bleus des coups qu'ils avaient reçus, les poings gros et pleins de sang. Alors elle se tourna vers sa cousine en souriant et prenant les chandelles. « Regardez, fit-elle, et vous verrez merveille. » Puis, tandis que la pucelle passait la tête et examinait curieusement le blessé, elle entra tout doucement dans la geôle et fit un pas vers le lit en murmurant « Je serais bien aise de lui donner un baiser. »«
Ah, dame, qu'avez-vous dit ? » s'écria la pucelle à voix basse. « Ne le faites pas, car s'il s'éveillait, il en priserait moins, et vous et toutes les femmes. Ne soyez pas si folle qu'ensuite vous ayez bonté. »
« Dieu m'aide, comment pourrait-on avoir honte de ce que l'on aurait fait pour un si prud'homme ? »
« Et s'il refusait ? Le plus preux de corps n'a pas toujours toutes les bontés du cœur. »
La pucelle en dit tant qu'elle détourna sa cousine de rien tenter, et toutes deux revinrent dans les chambres, où la dame commença de parler de son prisonnier, s'émerveillant qu'il eût fait tant d'armes.
« Ce doit être qu'il aime d'amour entrer au lieu, » disait-elle.
La pucelle s'efforçait de changer de propos, car elle devinait bien le cœur de sa cousine, mais elle ne put y réussir, et toutes deux passèrent la nuit à causer ainsi. Chapitre 26. Délivrance de Lancelot. Le lendemain, à l'aube, la dame de Malehaut se fit amener le prisonnier. Quand il fut devant elle, il se voulut asseoir à ses pieds, mais elle lui fit prendre place à ses côtés, et elle lui dit « Sire chevalier, je vous ai tenu en très douce prison, et vous devez m'en savoir gré. Je vous prie encore une fois de me dire qui vous êtes et ce que vous vous proposez, et si vous désirez que cela reste secret, assurez-vous que personne n'en saura rien. »
« Dame, me dussiez-vous couper la tête, je ne le dirai point. »
« Eh bien, apprenez-moi quelle est la dame que vous aimez d'amour, ou vous ne sortirez jamais de ma prison, ni par rançon, ni par prière. »
« Dame, vous ne le saurez point, car je ne vous répondrai pour rien au monde. »
Elle feignit d'être fort courroucée, mais ce n'était qu'un faux semblant, et parlant comme une femme irritée, « Dites-moi donc si vous pensez faire autant d'armes que vous en fîtes hier, ou bien je ne vous laisserai jamais aller. »«
Dame, répondit-il en pleurant, je vois bien qu'il me faut acquitter une honteuse rançon si je veux sortir de cette geôle. Puisque vous l'exigez, je vous avouerai que si cela m'est commandé, je pense faire aujourd'hui plus d'armes que je n'en fis jamais. »
« C'est assez. » Elle fit préparer des armes noires, un destrier noir, une côte d'armes noire, une armure noire pour le cheval. Et Lancelot partit, obscur comme la nuit. Chapitre 27. Le tournoi de Galaure, le noir chevalier. Quand il arriva, la bataille était déjà engagée et le pré tout couvert de champions qui joutaient deux à deux. Mais il demeura comme la veille sur le bord du gué, appuyé sur sa lance, à contempler la loge de la reine. Le roi était auprès d'elle, ainsi que messire Gauvain, qui s'était fait transporter là, trop blessé pour combattre. La dame de Malehaut ne tarda pas d'arriver à son tour,
et elle reconnut aussitôt son prisonnier.
« Dieu ! » dit-elle à haute voix, « quel peut être ce chevalier pensif que j'aperçois au bord de la rivière ? Il ne nuit ni n'aide à personne. » Tous et toutes se mirent à regarder l'inconnu.
« Hier, dit la reine, un chevalier rêvait ainsi au bord de l'eau, mais il portait des armes vermeilles.
« Dame, lui dit la dame de Malleot, ne vous plairait-il demander à celui-ci qu'il combatte pour l'amour de vous ?»«
Belle dame, j'ai autre chose à penser, quand messire le roi est en aventure de perdre sa terre et son honneur, et que mon neveu Gauvin gît blessé, comme vous pouvez voir. » « Mais mandez-lui vous-même et ses autres dames tout ce que vous voudrez. »
Alors la dame de Malleot appela une pucelle. « Allez à ce chevalier qui rêve là-bas et dites-lui que toutes les dames de la maison du roi Artus, fort madame la reine, le prient de combattre pour l'amour d'elle.
Et présentez-lui ces deux lances de ma part, » ajouta messire Gauvin en s'adressant à l'un de ses écuyers.
Lancelot écouta le message et accepta les armes. Puis, ayant ajusté ses étrivières, il piqua des deux vers la prairie. Dédaignant les jeunes chevaliers qui galopaient çà et là, il plonge au milieu d'un groupe de gendarmes, renverse du premier coup celui à qui il s'adresse et, sa lance brisée, frappe des tronçons tant qu'il dure. Puis il va prendre la seconde lance que lui a portée l'écuyer et joute avec toute l'adresse possible jusqu'à ce que son arme soit en morceaux. Et il use de même la troisième lance, la sienne. Mais après cela, il retourne au bord de la rivière, s'arrête au lieu même d'où il était parti, et, tournant son visage vers la tribune, il se reprend à rêver.
« Dame, dit à la reine messire Gauvin, vous avez mal fait quand vous ne voulûtes être nommée au message qui fut envoyé à ce chevalier pensif. Peut-être en a-t-il été offensé. Mandez-lui votre salut, et que vous lui criez merci pour le royaume de l'ogre et l'honneur de Monseigneur le roi, et qu'il combatte pour l'amour de vous, et que, si vous lui pouvez procurer honneur et joie, vous le ferez ensuite selon votre pouvoir. Je lui enverrai, pour ma part, 10 bonnes lances et mes 3 plus beaux chevaux couverts de mes armes. S'il veut, il emploiera bien tout cela.
Beau neveu, mandez en mon nom ce qu'il vous plaira. »
Messire Gauvin fit faire le message, et quand il l'eut reçu, Lancelot dit aux écuyers de le suivre, choisit la plus forte des lances, et s'en fut à l'endroit où les gens du roi, Idier de Cornouailles, combattaient ceux du roi Beau de Magu de Gore. Là, il laissa court et commença de faire voler tout ce qu'il heurtait, abattant hommes et chevaux à la fois, arrachant les aumes, trouant les écus et accomplissant tant d'exploits que le sénéchal, Giflé fils d'Eudo, Yvain la Voutre, Dodinel le Sauvage et Gaherier le frère de Monseigneur Gauvin, tous de la table ronde, qui arrivaient à la rescousse, aumes lassées, lances sur feutre, prêts à bien faire, n'en pouvaient croire leurs yeux. Lorsque son premier destrier eut été tué sous lui, Lancelot sauta sur celui qu'un des écuyers lui présentait, l'étreignit rudement et replongea dans la mêlée, aussi frais que s'il n'eût pas encore mis l'épée à la main. Or le cheval était couvert des armes de Monseigneur Gauvin. Les compagnons de la table ronde et tous les gens du roi Artus en furent ébahis. Mais bien plus ceux de Galeot, car aucun d'eux ne pouvait endurer les coups de Lancelot, et ils passaient au travers de leurs rangs, droits comme carreaux d'arbalète. Cependant, que appelait l'écuyer qui avait amené le destrier ? « Va, tôt à Hervé de Rinel, lui dit-il, que tu vois là-bas, auprès de cette bannière, mi-partie d'or et de sinople. Tu lui diras qu'il y a bien raison de se plaindre de lui. » Qui laisse ainsi mourir sans secours le meilleur chevalier qui ait jamais porté écu au col, et avec lui la fleur des compagnons du roi Artus. Certes, il en sera tenu pour mauvais jusqu'à sa mort.
« Dieu m'aide !» s'écria Hervé courroucé, quand l'écuyer lui eut répété ces paroles.
je suis trop vieux pour commencer de trahir à cette heure. Va devant et dis au sénéchal qu'il ne me tiendra pas pour traître. »
Quand il sut la réponse de Hervé, Queux se prit à rire. Puis il demanda à l'écuyer quel était ce chevalier noir et pourquoi messire Gauvin lui envoyait ses destriers. Mais le valet répondit qu'il n'en savait rien, et le sénéchal, remettant son aume qu'il avait ôté, retourna au combat. Hervé fit ce jour-là plus d'armes qu'il ne convenait à son âge, car il avait 80 ans passés, et ses gens clamèrent si fort en courant à la rescousse que le cri de « Hervé » domina un moment tous les bruits de la bataille. Messire Gauvin ne put s'empêcher d'en rire, tout malade qu'il fût. Galehaut, étonné de voir ses hommes reculer, car ils étaient plus nombreux d'un quart que ceux du roi Artus, se porta en personne de ce côté, et il aperçut le noir chevalier, dont le troisième destrier venait d'être tué, entouré d'une telle presse que les siens ne pouvaient l'approcher pour le remonter. Mais il frappait à droite et à gauche si rapidement que son épée sifflait autour de lui. Émerveillé d'une telle prouesse, Galehaut résolut de ne plus le perdre de vue, et il le suivit des yeux jusqu'à la fin du jour.